Bonjour, bienvenue dans un monde où les hommes seraient une espèce menacée, où ayant perdu et l'armure et le bouclier, ils se sentiraient nus, complètement nus, face à une horde de femelles échevelées, débridées, folles du pouvoir qu'elles auraient obtenu. Non, pas du pouvoir, des pleins pouvoirs. Dans ce monde-là, les femmes auraient la main sur tout, elles auraient tous les droits et toutes les libertés. Alors évidemment, il faut faire face, il faut faire front, il faut s'allier. Les hommes de ce monde-là se regroupent en meute et la nuit venue, ils sortent, ils draguent, ou plutôt, ils chassent. À la recherche de proies à qui ils pourront faire comprendre que les maîtres historiquement c'était eux. Alors on fait moins la maline hein, maintenant. Ce monde-là c'est aussi le vôtre car autour de vous, vous avez certainement entendu au moins une fois cette plainte masculine dite parfois tout bas, en tout cas beaucoup plus doucement. Les femmes nous ont émasculées, qu'allons-nous devenir? Parmi eux, certains ont simplement poussé le bouchon un peu plus loin, beaucoup plus loin. Certains se sont recréés une bulle à eux. Où pensent-ils? Leur virilité, leur identité n'est plus menacée. On va les voir de près ce matin. Bienvenue dans le monde des alpha mâles.
France Inter. Dans quel monde on vit? Julia Foyce.
Et pour nous glisser comme des petites souris curieuses sous le cuir tanné de ces mâles alpha, j'ai le plaisir de recevoir Mélanie Gourarier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, chercheur au CNRS, membre du programme ANR Éthopole du gouvernement des sentiments familiaux, professeur invité à l'Université de New York, membre associé à l'équipe pédagogique de l'EHESS du master genre politique et sexualité. Mais pendant 3 ans, vous vous êtes mise à écumer les bars, la nuit, avec des dragueurs en meute et en quête de 06. Vous assistez à des séminaires de coach en séduction et même que vous prenez des notes, vous apprenez la technique dite de la barquette de fraises dans le jardin du Luxembourg. Pardon, mais Mélanie Gourarier, qu'est-ce qui s'est passé?
Là, vous me laissez sans voix.
Comment vous est venue cette idée, cette envie de vous plonger dans le monde de ces alpha mâles?
Alors, je ne les connaissais pas du tout, en fait, quand j'ai commencé mon enquête. Ce qui m'intéressait, moi, je voulais voir un peu comment se passaient les rapports de séduction hétérosexuelle. Mm-hmm. Et j'ai travaillé d'abord sur le speed dating. Et c'est sur les lieux du speed dating que j'ai rencontré un coach en séduction.
Ah oui.
Qui m'a proposé de l'accompagner un soir dans un séminaire qu'il donnait le week-end suivant. Et je l'ai suivi. Je me suis retrouvée dans une salle bondée d'une centaine d'hommes qui apprenaient des techniques de séduction. Et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de la communauté de la séduction.
Et au bout du bout du bout, il y a donc ce livre Alpha Mâle, édité au Seuil. Vous en avez rencontré plusieurs hein, de ces mâles alpha. Tous les membres de cette communauté sont unis dans l'idée que le masculin est en crise. Mais ça veut dire quoi, en fait, le masculin en crise?
Alors, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose en même temps.
Mmh.
C'est-à-dire que la crise de la masculinité, je dirais que c'est le paradigme à partir duquel on pense majoritairement la masculinité. Aujourd'hui, quand on se parle de masculinité, si vous discutez de façon assez banale avec vos amis, vous verrez que ce qui revient toujours, c'est finalement les mecs, ce sont plus des mecs, ou les mecs, comme vous avez dit, sont émasculés. On empêche les hommes d'être des hommes, et tout ça, ce serait la faute du féminisme, notamment. Et en fait, ce que je me suis posé comme question, c'est qu'est-ce qu'il y a à travers ces discours? Enfin, qu'est-ce que ça signifie ces discours? Et j'ai cherché à apporter un éclairage historique, c'est-à-dire à regarder à quand remonte cette crise.
Oui.
Et aussi loin que j'ai pu remonter, quand je me suis intéressée à des historiens qui travaillaient sur les masculinités, à chaque époque, ils identifiaient des discours de crise. C'est-à-dire que peu importe où on remonte, jusqu'aux Grecs, il est toujours question d'une masculinité qui serait menacée, etc.
Mais pourquoi au fond?
Alors, pourquoi au fond? Si la crise de la masculinité, elle est récurrente historiquement, c'est bien que son existence, le terme de crise pose question.
Ouais.
Et du coup, ce que j'ai plutôt posé comme question, c'est finalement à quoi ça sert de parler d'une crise de la masculinité.
Alors,
et ce que je montre dans mon livre, notamment, c'est que finalement, invoquer une crise alors même que qu'elle aurait toujours existé, qu'elle serait toujours là, donc invoquer finalement une inversion des rapports de pouvoir, puisque c'est ça qui est sous la crise, c'est plutôt travailler un renforcement d'un ordre qui n'a jamais faibli, qui n'a jamais disparu.
C'est-à-dire, je fais semblant d'être attaqué pour mieux attaquer moi-même.
Exactement, et on le retrouve dans d'autres types de discours réactionnaires aujourd'hui, ce fonctionnement. Ben, par exemple, on l'a vu très bien avec le mariage pour tous, où l'ordre de la famille serait menacé, c'est ça qui est revenu. Et il s'agissait plutôt de renforcer un ordre social qui n'a jamais faibli, finalement.
C'est ça. Alors, les hommes que vous avez rencontrés disent à peu près tous dans un bel ensemble que la révolution sexuelle est une arnaque inventée par les femmes et que les féministes sont responsables de cette crise du masculin. Vous dites donc absolument pas, rien à voir avec la révolution sexuelle, rien à voir avec, effectivement, les avancées qu'ont pu enregistrer les femmes ces 10, 20, 30 dernières années.
Alors ça, c'est un autre point. C'est aussi que la crise de la masculinité, elle part du principe, finalement, qu'est-ce qu'elle dit ? Que la masculinité, elle serait unique, univoque dans l'histoire aussi, et au niveau social. Il n'y aurait qu'une seule masculinité. Or, à mon sens, la masculinité, elle se transforme à travers le temps, elle se transforme dans l'histoire, et en plus, elle est plurielle socialement, c'est-à-dire qu'il existe au même moment plusieurs types d'être de masculinité, et que ces types de masculinité qui sont présents au même moment dans une même société, eh bien, sont hiérarchisés entre eux. Il y a des hiérarchies aussi entre hommes.
Qu'est-ce que cette crise du masculin, celle-ci, celle qu'on est en train de vivre, enfin qu'ils disent être en train de vivre, qu'est-ce qu'elle a de contemporain ? Qu'est-ce qu'elle a d'actuel ? Parce que vous dites qu'il y en a toujours eu finalement des discours comme celui-là. Qu'est-ce que celui-ci doit à la société d'aujourd'hui, au contexte social dans lequel on est ?
Alors une des nouveautés, je dirais, de ces discours, hein, ils prennent des formes, ces discours se transforment aussi à travers le temps, c'est par exemple ce qu'on appelle le masculinisme. Et le masculinisme, c'est assez intéressant parce que c'est ce que j'ai observé dans cette réunion d'hommes entre eux finalement, c'est qu'il y a à la fois un positionnement antiféministe, mais aussi une nécessité de se retrouver entre hommes pour discuter de ce qui serait, ce qui relèverait d'une condition masculine contemporaine. Et ça, ce discours-là sur la condition masculine, c'est une construction qui s'est faite en miroir inversé par rapport à la condition féminine.
Et puis, il y a aussi, vous l'écrivez, hein, l'essor du développement personnel et de la littérature qui va avec. Il y a aussi l'essor des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça change ? Est-ce que ça favorise un certain état d'esprit ?
Oui, ça, il me semble que ça, enfin, en tout cas, ça permet une diffusion beaucoup plus rapide. Ouais. Notamment, la communauté de la séduction est apparue en Californie dans les années 90. Et elle s'est diffusée très rapidement au moyen de publications, mais de publications par le biais d'un livre qui s'appelle The Game, qui est un peu la bible des séducteurs, mais aussi par le biais de livres qui sont vendus sur Internet et par la création de forums dédiés à la communauté de la séduction. Et aujourd'hui, la communauté de la séduction, les hommes qui vont sur ces sites, eh bien, on en retrouve à travers le monde, en fait, principalement en Amérique du Nord et en Europe, mais c'est vraiment étendu, ça s'est étendu à une grande vitesse.
Et donc, vous dites 30 000 à peu près adeptes en France et puis une dizaine de groupes, hein, c'est ça ?
Alors, beaucoup plus à mon sens, c'est très difficile de les quantifier, mais en tout cas, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le The Game dont je viens de parler est classé depuis quelques années dans les top 20 des meilleures ventes de livres de développement personnel. Donc, vous voyez, c'est des gros chiffres, The Game est traduit en plus de 15 langues, etc. Donc, c'est très, très, très lu et très connu.
Alors on va plonger avec vous au milieu de ces meutes d'hommes en perdition, en transformation accélérée vers la reconquête de leur virilité perdue. Et nous aussi on ira draguer dans des rades, non mais oh!
Insatisfaite, caustique et volatile, des idées noires dans la tête, cynique, hostile.
Ça a l'air tout facile comme ça, hein, c'est sautillant, c'est entraînant. Sauf que c'est difficile et que c'est junior avec un E parce que c'est un trio de filles avec un premier album, oulala, sorti en mars dernier et entre autres un concert à Marseille le 5 août dans le cadre du festival Plan B. Alors vous qui nous écoutez, surtout rejoignez-nous dans ce monde qui est aussi le vôtre. Écrivez-nous par mail sur cette adresse dans quel monde on vit @radiofrance.com. Et pour ceux qui trouvent qu'un mail, eh ben, c'est beaucoup trop 2010, foncez, oui, allez-y sur Instagram ou sur Twitter, on y est aussi. Les comptes sont à mon nom, Julia Foyce, hein, pour ceux qui auraient encore un doute. Et le hashtag, c'est celui-ci, dans quel monde on vit. Nous sommes toujours avec l'anthropologue Mélanie Gourarier sur les traces de ces alpha mâles, objet de votre enquête. Mais pardon, c'est quoi un alpha mâle? Est-ce que c'est la base de la base de la base de ce qui est censé être la virilité depuis à peu près Cro-Magnon, c'est ça?
Non, c'est l'inverse. Je dirais que l'alpha mâle, c'est plutôt un idéal de masculinité, ouais, inatteignable en quelque sorte.
D'accord. Et qui passe par quoi? C'est des vertus physiques, c'est des vertus morales, c'est quoi?
L'alpha mâle, il n'existe pas en soi. L'alpha mâle, c'est comment est-ce qu'on va définir un idéal de masculinité dans une société donnée. Donc, ça change tout le temps finalement. Et par exemple, pour illustrer ça, l'alpha mâle aujourd'hui, celui qu'on considère comme étant le summum de la masculinité, il a intégré des qualités qui étaient à un autre moment et dans un autre espace social donné, qui étaient des caractéristiques plus proches de la féminité. Ouais, par exemple, je pense à l'expression de ses émotions, la nécessité d'exprimer ses émotions, la nécessité d'être aussi engagée dans sa vie familiale. Toutes ces choses-là sont aujourd'hui constitutives de l'homme idéal, en quelque sorte, si vous voulez, et ce n'étaient pas des caractéristiques propres à l'alpha mâle à des moments plus précoces.
Alors, eux se définissent comme des pick-up artistes, des artistes de la drague. Quel est le profil type de ces artistes, de ces membres de ces communautés de la séduction? Parmi ceux que vous avez rencontrés, est-ce qu'il y a des dénominateurs communs, je sais pas, en termes d'âge, de catégories socio-professionnelles?
Alors, ils sont le gros dénominateur commun, je dirais, c'est l'âge. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt très jeunes. Ils ont entre 18 et 25 ans pour la grande majorité.
Et c'est-à-dire, ils ont 18 et 25 ans et ils se sentent déjà en crise?
Ils se sentent surtout en crise parce qu'ils ont 18 et 25 ans. Et un de leurs discours, c'est de dire finalement, la société moderne, contemporaine, elle ne permet pas l'apprentissage de la masculinité. Mm-hmm. Ce qui se faisait avec le service militaire ou avec le rôle important des pères paternels. Mm-hmm. Tout ça, ça aurait disparu dans la société. Il y aurait une nécessité sociale de créer des institutions qui permettraient à la masculinité de se transmettre. Et ça, c'est un de leurs propos finalement. C'est de favoriser des espaces qui remplaceraient la déperdition d'autres types d'institutions traditionnelles qui transmettaient la masculinité.
Est-ce que le niveau d'études ou est-ce que le lieu de vie peut changer et peut... Est-ce que des hommes qui rejoignent ces communautés de la séduction, est-ce que c'est des gens qui sont plutôt CSP+, ou est-ce que c'est au contraire des gens qui vivent très isolés à la campagne? Est-ce que tout ça, ça joue en termes d'ouverture au monde aussi?
Alors, ce qu'on retrouve dans la communauté de la séduction, bon, du coup, vu le jeune âge, y a un point commun aussi, c'est que la plupart sont en train de soit terminer leurs études, soit de commencer leur vie professionnelle. Pour le coup, moi, j'ai travaillé sur la France, et ce que j'ai pu remarquer, c'est que beaucoup venaient plutôt des grands centres urbains, mais pas uniquement de Paris et de la banlieue parisienne, mais un peu partout en France. Et de catégories sociales plutôt classe moyenne supérieure. Voilà.
D'accord.
Ça, c'est le dénominateur commun. Ensuite, la masculinité à laquelle ils aspirent, celle qu'ils visent, l'alpha mâle, pour eux, ça correspond en fait à une masculinité plutôt jeune, de classe moyenne et blanche.
D'accord. C'est-à-dire
que ça aussi, c'est quelque chose d'assez important. C'est-à-dire que l'idéal de masculinité, il reste nécessairement associé à la blancheur.
Bizarrement, il n'est pas noir et cul-de-jatte, quoi.
Voilà.
Alors, pour qu'on parvienne à se représenter les choses, pour qu'on les visualise, vous nous avez d'abord apporté cette photo, Mélanie Gourarier. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, s'il vous plaît?
Oui, alors c'est une photo qui est tirée d'un film, en fait, de David Fincher, Fight Club.
Ouais.
Et on voit sur cette photo Brad Pitt qui est torse nu, avec un pantalon quand même assez bas, descendu assez bas. Qui
on voit comment on appelle ça, le trait de l'ange,
un
truc de l'ange, quoi. Enfin, un truc,
voilà. En tout cas, quelque chose qui est considéré comme étant particulièrement sexy.
Oui.
Et il fume une cigarette aussi. Voilà, il incarne une espèce de masculinité là, plutôt populaire, je dirais, des classes populaires. Ouais. ultra viril. Voilà. Et ce qui est intéressant sur cette photo, je dirais, c'est que, enfin, ce qui m'a intéressé sur cette photo, c'est surtout que c'est que des hommes entre eux. Mm-hmm. C'est que des hommes entre eux qui se regardent et qui vont a priori se battre. Hein, c'est l'objet de Fight Club. Et du coup, il y a deux choses qui me paraissent importantes. Il y a d'une part les rapports entre hommes. Ce que j'essaye de montrer dans mon travail, c'est que l'hétérosexualité masculine se construit pas seulement dans le rapport hétérosexuel homme-femme, mais aussi dans le rapport entre hommes, ça c'est un truc très important. Et l'autre chose, c'est que c'est le sous-titre de mon livre. Il y a l'idée de s'apprécier entre hommes. Donc s'apprécier, c'est s'aimer. Il y a l'idée d'amitié masculine qui parfois se rapproche de l'amitié amour, de l'amour. Mm-hmm. Et aussi s'apprécier, se jauger, s'évaluer. Donc se hiérarchiser entre eux.
Alors vous parlez d'hiérarchie parce qu'effectivement la compétition elle est très forte, elle est très rude. Entre eux, il y a une espèce d'échelle du séducteur, c'est ça qui va, du dragueur qui va du pauvre type frustré, je vous cite, hein, jusqu'au séducteur d'exception. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont en compète entre eux-mêmes et qu'il faut gagner des points et qu'il y a une espèce d'échelle sur laquelle on va grimper, c'est ça?
Alors eux, ce qu'ils disent, c'est que plus que être en compète entre eux-mêmes, et ça c'est vraiment un discours du développement personnel, c'est qu'ils sont en compétition avec eux-mêmes. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une trajectoire d'ascension, ils partent tous, ils décrivent tous la même trajectoire quand on les interroge. C'est-à-dire qu'ils commencent en tant que losers. Pauvre type AFC, c'est un nom. Hein.
Ça, c'est le loser, j'ai appris ça. Le loser est celui qui offre quelque chose à un premier rendez-vous.
Ça fait partie. C'est une des choses qui caractérise le loser, c'est qu'il ne sait pas trop comment s'y prendre en séduction et qu'il fait l'erreur du débutant. L'erreur du débutant, c'est d'être trop engagé dans la séduction et notamment, effectivement, d'offrir des cadeaux.
Alors, moi, vous pouvez, les cadeaux. C'est bon. Pardon, je vous ai coupé.
Donc ça, par exemple, offrir un cadeau pour séduire, c'est typiquement ce qui fait le mauvais séducteur.
D'accord.
Et ensuite, il est amené à intégrer les règles proposées par la communauté de la séduction, les nouvelles techniques de séduction, et à évoluer dans sa propre trajectoire.
Alors, s'il y avait une odeur dans cet univers de mâle ultime, ce serait sans doute celle de la sueur, du poil, du muscle, de la testostérone, en un mot. S'il y avait une saveur.
Et de l'aftershave aussi.
Et de l'aftershave, bien évidemment. S'il y avait une saveur, ce serait peut-être celle de l'amertume, de la frustration qui se lit parfois entre les lignes des témoignages que vous avez recueillis. Oui, le goût de l'effort, oui, mais un effort pénible, hein, quand c'est dur, quand c'est lourd, cette rencontre avec l'autre, avec le corps de l'autre. En revanche, la bande-son que vous avez choisie pour notre immersion matinale, Mélanie Gourarier, elle est toute douce. Toi, l'homme, Barbara.
Je cherche un homme, un homme qui ressemble à un homme ensemble. C'est beau et puis c'est chaud les hommes. Et plus c'est rare, plus ça tient chaud. J'aimerais que ce soit moins rare, mais tant pis si j'avais moins chaud. J'en ai connu plusieurs que le soir nous apporte et qu'au petit matin triste l'on reconduit jusqu'au seuil de sa porte. J'en ai connu plusieurs, mais le vent les emporte. Ils font de ma maison plus triste qu'un automne, un jardin d'amour mort. Si tu es l'homme, cet homme qui ressemble à mon homme en somme. Si tu es l'homme que j'espère, si tu es l'homme que j'attends, oh tu devrais venir plus vite, tu devrais venir maintenant. Si tu es l'homme après qui aucun autre homme sur ma vie ne sera plus jamais.
Une femme qui séduit les hommes, c'est l'horreur absolue, hein, Mélanie Gourarier, pour ses alpha mâles. C'est aux hommes de prendre l'initiative, question de principe, parfois même question de survie, mais pourquoi? Pourquoi il faut que ce soit eux qui soient aux commandes de la séduction? Qu'est-ce qui se joue?
Alors ça, c'est leur grande idée, c'est que ce seraient les femmes qui auraient pris tous les pouvoirs, et notamment dans les rapports de séduction, et que finalement, la séduction serait la dernière arène de résistance, de la résistance masculine à récupérer, en fait, par les hommes. C'est un lieu de combat, finalement, de la réappropriation du pouvoir par les hommes.
Sauf que ça va très très loin, parce que, citant Alain Soral, qui fait quand même partie de leur référence, en tout cas pour certains, le consentement d'une femme, en fait, c'est un détail.
Alors c'est pas un détail, c'est que le consentement, en fait, finalement, c'est surtout que le nom d'une femme au début d'un rapport de séduction n'est pas nécessairement ne signe pas la fin du rapport de séduction, mais peut signifier son début. C'est-à-dire que
c'est le fameux quand elle veut dire non, c'est qu'elle veut dire oui. C'est quand elle dit non, c'est qu'elle veut dire oui.
C'est pas tellement ça. C'est plutôt que finalement, tout l'art du séducteur, c'est d'amener l'autre à sur son propre territoire, d'amener l'autre à finalement à consentir. Donc il y a des techniques, des stratégies pour emmener l'autre à céder effectivement.
Alors, ils ont aussi beaucoup d'admiration pour des gens comme... alors, il n'y a pas que lui, bien sûr, mais comme DSK, Dominique Strauss-Kahn. Pour eux, l'affaire du Carlton, fameuse affaire, évidemment, qui avait mis tout le monde en émoi, pour eux, c'était une incompréhension. C'est l'art de séduire à la française qui a été brimé par la culture américaine, c'est ça ? Pour alors eux, ça... c'est de la gauloiserie ?
Alors ça, en fait, finalement, ils reprennent pas tellement l'affaire en elle-même, l'affaire judiciaire plutôt, mais plutôt les commentaires qui ont eu lieu au moment de cette affaire dans la presse. Et il y a eu plusieurs chercheurs, notamment sciences sociales, qui ont réagi sur cette affaire de façon interposée dans différents médias. Certains en pointant finalement qu'il y avait un féminisme à la française qui serait spécifique et qui serait pas puritain et qui était donc opposé aux chercheurs, notamment en études de genre, qui seraient considérés comme beaucoup trop puritains, se rapprochant d'un puritanisme américain. Or, cette affaire a montré aussi comment est-ce que d'une part une affaire en harcèlement sexuel était requalifiée en affaire de séduction, ce qui est quand même assez étonnant. Mmh. Et ensuite, à quel point est-ce que finalement on invisibilisait aussi la façon dont la séduction est toujours et nécessairement un rapport de pouvoir.
Alors, cette séduction, elle s'apprend dans des séminaires, dans des ateliers, vous l'avez dit, vous y êtes allé. Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez entendu ?
Ah bah, j'ai vu beaucoup de choses parce que j'y ai passé 3 ans. Mais ce qui m'a interpellée, c'est notamment la diversité, par exemple, de l'offre en séduction, puisque ça peut commencer, ça commence d'ailleurs souvent au début par un relooking. Donc on change son vestiaire, on change aussi ses pratiques corporelles, la manière de se tenir dans l'espace, la manière, sa voix, sa tonalité de voix, ça fait partie aussi de l'apprentissage de la séduction.
Qu'est-ce qui, dans ces ateliers, fait vraiment mec ? Pour eux, hein, dans ce que vous avez entendu.
Alors là aussi, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs types de mecs qui sont valorisés. Et par exemple, moi, j'ai travaillé sur la communauté française de la séduction. Il y avait certains coachs qui cherchaient à se distinguer des coachs précurseurs qui sont américains et qui essayaient de mettre au point des techniques à la française de la séduction. Et notamment en disant que les techniques toutes apprises, toutes faites, elles sont artificielles. Ce qu'il faut, c'est séduire par soi-même. Encore une fois, ça, c'est un discours très proche du développement personnel. Et séduire par soi-même, c'est acquérir une certaine culture, être cultivé et devenir finalement ce qu'ils appellent un natural, donc un homme qui aurait incorporé à tel point la masculinité qu'il se passerait des techniques de séduction.
D'accord, donc ça, c'est le but ultime. C'est le but du processus. En attendant, ces pick-up artists donc se regroupent autour de, j'allais dire, en meute, mais pas seulement. En fait, ils se regroupent autour d'un tas de mots anglais qui évoquent un petit peu l'armée. Est-ce que vous pouvez, Mélanie Gourarier, nous parler des lairs, par exemple, ou du field?
Alors le field, c'est assez intéressant parce que moi qui suis anthropologue, le field c'est aussi le terrain de l'anthropologue, dans le jargon en anthropologie. Et chez eux, le field c'est le terrain de séduction. Donc le terrain de séduction, ça peut être n'importe quoi, ça peut être la rue, une salle de cinéma, partout.
La rue c'est ce qu'il y a de plus noble, hein, c'est ça,
c'est parce qu'il la rue c'est le terrain qui est considéré comme le plus difficile finalement pour les séducteurs. Et comme ils ont comme ça aussi une idée de l'effort, effectivement la rue c'est le terrain qui est considéré comme celui des vrais séducteurs. Mais il y a aussi le field dans le métro, etc. Donc le field ça désigne de façon assez générique les espaces de séduction mis en scène, en fait, les jeux de séduction par eux-mêmes.
Et ce qui va leur permettre, du coup, en allant sur ces fields-là, en meute, de marquer des points et de gravir petit à petit les échelons, cette fameuse échelle du dragueur dont on parlait tout à l'heure. Alors, ce qui m'a amusée, c'est que vous, évidemment, vous prenez votre travail très au sérieux, Mélanie, et donc vous suivez un soir Alexandre, Brice et Romain dans le quartier de l'Odéon à Paris.
Ouais.
Vous vous retrouvez au milieu d'un exercice pratique, racontez-nous, il se passe quoi ?
Alors en fait, ces jeunes hommes, je les ai rencontrés dans des cours de séduction et ils m'ont proposé de les suivre dans la pratique. Et ils me proposent de les retrouver dans le quartier d'Odéon, qui est un haut lieu de comme c'est un grand lieu de passage et de tourisme, c'est un haut lieu de drague aussi pour les apprentis séducteurs. Et je les retrouve dans un café où ils vont rester quasiment les 3/4 du temps à discuter entre hommes de tout et de rien. Et à un moment donné, ils vont quand même décider à aller s'entraîner, à aller sur le field. Et ça va durer très peu peu de temps finalement. Et une de mes analyses, et ça c'est, je dirais, c'est le point commun aussi de mon travail, mais mes analyses vont plutôt vers là, c'est de dire que finalement, le rapport homme-femme, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est le rapport entre hommes. Ouais, il se joue quelque chose dans le rapport entre hommes.
Vous savez quoi, Mélanie Gouararier, on va quitter les rades de nuit, on part à la plage, on part draguer à la plage avec Arnaud qui veut nager. Oui, lui, il appelle ça comme ça.
Tu penses que les femmes m'adorent? Tu penses que mon nez n'est pas trop grand? Tu penses que je suis intelligent? Tu penses que je pense? Et moi je veux nager encore une fois avec toi. Et moi je veux nager. Ma femme n'est pas là. Je suis pas James Bond. Tu penses que je peux être une star? Tu penses que je suis assez beau? Tu penses que j'ai une tête de veau? Et moi je veux nager encore une fois avec toi. Et moi je veux nager. Ma femme n'est pas là. Oh. Tu penses que je suis pas trop petit? Tu penses que je peux être heureux? Tu penses que je vais mourir? Tu penses que je dis des conneries? Et moi je veux nager encore une fois avec toi. Et moi je veux nager. Ma femme n'est pas là. Oh, moi j'aime Dieu, mais je fais ce que je veux. J'adore Hollywood. J'aime l'été à Saint-Tropez. Oh. Et moi je veux nager encore une fois avec toi. Et moi je veux nager. Ma femme, elle n'est pas là. Oh. Et moi je veux nager.
Arnold Charles Ernest Intiens, alias Arnaud. Quelle voix d'homme de mal gras. Ou alors on dit merci. Qui on dit merci? Djoubaka pour cette playlist tout pile poil comme on aime. Et puis merci à tous ceux qui m'aident à faire cette émission, à la technique Pauline Laverdure, à la réalisation Romain Humbertèche, Valentin Pérez et Mégane Fleury. Elles m'ont aidé également à coordonner, programmer cette émission avec Elisa Bondarenko et Rose Bernard sur les réseaux sociaux.
Dans quel monde on vit? Julia Boyce sur France Inter.
Nous sommes toujours avec l'anthropologue Mélanie Gouararier pour nous plonger dans ces communautés de la séduction, repère de mâle alpha, d'une virilité en perdition. Mais alors là, on va faire un virage à 180 degrés en apparence, ou du moins. Thibaut Sardier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et pour le magazine Têtu, pour son numéro de l'été, vous avez enquêté sur les plages gays. Ça va, c'est pas trop difficile non plus comme travail.
Enfin, entre non, surtout quand
une
il
qui fait
beau.
Les rades et l'autre qui fait les plages, ça va, merci beaucoup. Bon, alors évidemment, le point de départ de votre enquête, en apparence, c'est très léger, sauf qu'il raconte beaucoup de choses. On va aller y faire un tour avec vous, si vous voulez bien.
Avec plaisir.
D'abord, à quoi ça ressemble, une plage gay? Est-ce qu'elles sont indiquées de loin? Est-ce qu'il y a un détail, on va se dire, tiens, on y est?
Alors, c'est tout le problème, c'est que la plage gay, finalement, il n'y a pas une seule plage gay.
Ah bah voyez, vous commencez par un problème.
Bah oui, effectivement. De même, d'ailleurs, qu'il n'y a pas une seule plage, hein, quand on raisonne en termes génériques. La plage, si vous voulez, en géographie, la façon la plus simple de la définir, c'est un agrégat de détritus, donc le sable, les galets.
Ça fait rêver.
Vous voyez, déjà, ça fait pas, c'est moins okay. Le soleil, la serviette étalée.
Donc, va pour l'agrégat de détritus.
Voilà. Et donc, une fois qu'on a posé un petit peu ce décor, on y ajoute, par contre, eh bien, les corps un petit peu dénudés. Soleil. Alors, justement, dans le cas de la plage gay, là, on a quand même quelques caractéristiques qui vont se mettre en place. C'est que c'est un lieu souvent à l'écart, évidemment, de la plage la plus fréquentée par les autres groupes, hein, qui vont habituellement à la plage. Et puis, l'élément principal, c'est systématiquement une arrière-plage, souvent un peu cachée par des rochers, par de la végétation, dans laquelle il y a des rapports sexuels ou des pratiques sexuelles, en tout cas.
Directement, c'est-à-dire qu'on passe pas par la case, on rentre à la maison, quoi.
On passe pas par la case, on rentre à la maison. Généralement, on va d'abord sur la plage au bord de la mer, on bronze, on va nager, on regarde un petit peu les hommes qu'il y a autour.
Et vas-y, il faudra un peu de crème solaire, et vas-y, crème-moi, et compagnie.
Pas forcément. Ah, c'est-à-dire que vous pouvez avoir simplement un jeu de regard qui va se mettre en place. Et puis quand l'un des hommes va partir à l'arrière de la plage, l'autre qui peut-être intéressé va le rejoindre. Ah non, là, il faut avoir une bonne vue, effectivement.
Ça
peut être compliqué. Mais après, vous avez effectivement des gens qui vont discuter avant et puis choisir ensemble d'aller après à l'arrière.
Alors, pardon, mais on me dit plage, on me dit drague, on me dit gay. Moi, je pense à L'Inconnu du Lac, film d'Alain Guiraudy. Allez hop, on en écoute un extrait.
Bonjour.
Ah, salut.
Ça va? Eh, passe ton chemin. Lui est avec moi, il cherche personne.
Ah, mais ça va, il me dit bonjour.
Il a deux de façons de dire bonjour.
Faut dire bonjour comment?
Je commence à vous connaître, moi, tous les PD du coin. Tant qu'il vous reste un mec à choper, vous êtes pas content.
Ça va, tu...
Je peux vous mettre à poil aux endroits où ça drague? Désolé, on n'est pas là où ça drague. Là-bas, ça drague. Ici, j'ai jamais vu que ça drague.
Elle est où, la frontière?
À ces arbres-là.
Vous l'avez vu, l'un et l'autre, ce film, L'Inconnu du Lac? Vous
Absolument.
En avez pensé quoi, Thibaut Sardier?
Mais écoutez, alors je l'ai revu avant de commencer cette enquête. Et puis finalement, ce qui est apparu en interrogeant à la fois les chercheurs qui travaillent sur les plages et les gens qui les fréquentent, c'est que c'est assez fidèle.
Il y a des chercheurs qui travaillent sur les plages, non mais c'est une manie.
Évidemment, qui font du terrain et qui participent aux actes pour étudier plus en détail.
Moi, je vais faire du terrain en 5 étoiles, non mais ça ne me quitte pas, moi, cette idée. Et donc, pardon.
Et alors, ce qui est intéressant dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est cette question de la frontière. Parce que la plage gay, évidemment, elle n'a pas d'existence légale, hein, pour la simple et bonne raison qu'elle est quand même si on n'est pas obligé d'avoir des pratiques sexuelles sur une plage gay, elle est quand même organisée autour du projet sexuel.
Ouais.
Et évidemment, le sexe est illégal dans l'espace public. Donc ça veut dire que la plage gay va souvent être à l'écart du reste du littoral. Il faut soit suivre un chemin un petit peu escarpé, soit marcher beaucoup sur le fond de mer. Et donc la frontière, elle est parfois ténue avec d'autres types de plages.
Mais en fait, c'est assez paradoxal ce que vous racontez dans votre article, parce que vous dites que c'est un espace de liberté. Et en même temps, tout a l'air extrêmement codifié.
Oui, il y a beaucoup de codes.
Lesquels, par exemple? C'est-à-dire, si moi je déboule... Alors déjà, est-ce qu'il y a des femmes sur les...
Il peut y avoir des femmes.
Ouais.
Alors, dans les témoignages que j'ai recueillis, il y a souvent des gens qui partent en vacances et qui disent « Moi, j'emmène ma meilleure copine sur les plages, on regarde ensemble les mecs. Quand je m'absente un petit peu à l'arrière de la plage, elle attend, elle garde les affaires et puis après, on se raconte. »
Sympa. Voilà, c'est sympa, les vacances pour la bonne copine.
C'est on lit l'utile à l'agréable, si j'ose dire.
Oui, enfin, l'utile à l'agréable, ça dépend pour qui. Et mais des plages pour femmes, pour des couples de femmes?
Non, ça n'existe pas. Ça, c'est,
vous l'expliquez comment?
Alors, l'une des explications... Alors déjà, d'abord, c'est difficile à expliquer. Quand vous posez la question à des géographes, des socio-anthropologues, ils n'ont pas de réponse définitive à fournir, si ce n'est peut-être que l'affichage du corps féminin dans l'espace public, aussi la question du danger possible, d'agression sexuelle,
ouais,
pour parler clairement, peut expliquer qu'il n'y ait pas ces lieux, ces équivalents pour les femmes.
Donc imaginons que je sois un homme. Imaginons que je déboule sur une plage gay. Qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire pour être dans les codes de la séduction dont on parlait?
Vous faites comme d'habitude.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que vous allez sur la plage, vous déroulez votre serviette.
Ouais.
Et alors, si vous avez un smartphone, vous pouvez allumer une application de drague. De plus en plus de gens vont sur les plages gays. Et au lieu de draguer de façon traditionnelle, entre guillemets,
mais à quoi ça sert s'ils sont à deux serviettes de moi, j'ai pas besoin de mon smartphone?
Et si, parce que ça élargit le champ de la recherche. Vous avez, en gros, vous jouez sur les deux tableaux, les gens qui sont autour de vous, que vous pouvez voir et évaluer directement, et ceux qui pourraient être à proximité, mais pas visibles. Et donc, vous allez pouvoir draguer dans les deux catégories.
C'est ça. On ne se coupe d'aucune possibilité.
Donc, exactement.
Voilà. Mélanie Courarier, comment les alpha mâles considèrent-ils l'homosexualité?
Alors, c'est très ambigu parce qu'ils sont à la fois extrêmement homophobes, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve globalement dans les lieux de réunion d'hommes hétérosexuels. Mm-hmm. L'homophobie, elle est permanente, puisque dans ces espaces de rapport de proximité entre hommes, il y a une nécessité de mettre à distance l'homosexualité. Donc il y a ça, mais il y a aussi, par contre, un rapport quasiment, je dirais, d'appropriation de certaines normes homosexuelles, et notamment des questions d'apprentissage de la sexualité, puisqu'ils considèrent que, par exemple, dans certaines pratiques sexuelles, ils ont des choses à apprendre de l'homosexualité, et ça, ils récupèrent sans aucune difficulté les...
Et puis des codes esthétiques aussi, des codes vestimentaires, et puis il y a un peu... Il y a un peu de ça quand même, non ? Vous écrivez dans votre livre que certains vous disent le style gay marche mieux avec les filles, par exemple.
Ça, c'est des thèmes. Alors, c'est pas moi qui le dis, ça c'est un extrait d'entretien. Donc effectivement, ils considèrent qu'il y a certaines manières, enfin que quand on a l'air homosexuel, eh bien on met plus en confiance les femmes, et c'est peut-être plus facile de les séduire.
Je ne sais pas si j'ai envie de rire ou de crier.
Mais ce que je dirais, ce qui me paraît aussi intéressant, c'est que finalement, leur homophobie ne porte pas tant sur les rapports sexuels entre hommes que sur la question de l'efféminement. En fait, ce qu'ils mettent à distance, c'est vraiment globalement la féminité.
Alors, vous écrivez que dans ce contexte-là, Thibault Sardier, où l'homophobie tout de même n'a pas disparu, pour certains, continuer d'aller sur ces plages gays, c'est aussi un acte militant.
Ça peut être un acte militant, oui. Ouais. Dans l'idée que... ce qui peut être considéré comme une normalisation de l'homosexualité. Alors, le mot est un peu ambigu, mais en tout cas, l'idée que des homosexuels dans l'espace public, ça pose de moins en moins problème. Il y a aussi l'intégration de certaines normes, par exemple, hein, tout simplement la norme du couple fidèle, si on le caricature, et que aller sur les plages gays, c'est aussi aller dans un lieu où l'espace, les possibilités sont plus importantes, où on va pouvoir vivre plus librement sa sexualité selon l'instant.
Sauf qu'elle se vide, ces plages.
Sauf qu'elle... Alors,
enfin, elle se vide, oui et non. Mais
en tout cas,
y a quand
vous essayez d'interroger des jeunes, ce que j'ai essayé de faire, et notamment les contactant à partir d'applis de drague.
Enfin, les jeunes disent n'importe quoi, c'est bien connu.
Voilà, les jeunes disent n'importe quoi. Ou alors, ils ne sont pas encore tout à fait au clair encore avec leur sexualité quand ils ont 18-20 ans. Et on se fait parfois recevoir un peu vertement, du genre, les générations précédentes se sont battues pour les droits et une meilleure acceptation des homosexuels. Ce n'est pas pour que moi, maintenant, j'aille m'enfermer dans un lieu exclusif.
Alors que ce que vous racontez-vous, Mélanie Gourarier, vous le disiez tout à l'heure, c'est que petit à petit, ces alpha mâles se regroupent tellement, se referment entre eux les uns sur les autres, avec loin d'eux les homosexuels, loin d'eux les femmes. On va pouvoir en reparler, mais d'abord, je voulais qu'on entende le texte que vous avez choisi. C'est un extrait de Pimp, Mémoire d'un macro, d'Iceberg Slim. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ce texte-là, rapidement ?
Alors rapidement, je l'ai choisi parce que ce que je trouve intéressant, c'est que Pimp, c'est l'histoire d'un macro, c'est un récit autobiographique dans l'Amérique noire, dans Chicago des années 30, et que c'est l'ascension sociale d'un homme donc noir qui va sortir de sa situation en faisant l'exploitation du corps des femmes, puisqu'il devient mac. Mm-hmm. Donc, et les techniques qu'il met en place pour bien garder son écurie, donc son écurie, c'est ses prostituées, en fait. Eh bien, sont des techniques qui sont assez proches de techniques de manipulation et de séduction. Et d'ailleurs, à certains moments, les membres de la communauté de la séduction vont me citer Pimp comme étant une référence.
Eh ben, on va écouter cet extrait de Pimp, donc lu par Franck Cognard.
Bonne nuit, dit Jakim tandis qu'elle sortit de la voiture. N'oublie pas que c'est samedi aujourd'hui. Je veux tout le monde sur le bitume à midi au lieu de 7h. Et j'ai bien dit midi, pas midi 5, ni midi 2, midi pile. Compris, baby ? Elle ne répondit pas, mais eut une étrange réaction. Elle contourna la Cadillac et s'approcha de ma fenêtre. Pendant un long moment, elle resta là, à me regarder. Dans la faible lumière de l'aube, je distinguais l'expression tendue de son beau visage. Avec son accent pointu de Nouvelle-Angleterre, elle lança alors. « Tu reviendras me voir tout à l'heure. Depuis un mois, tu n'as pas passé une seule nuit avec moi. Alors je t'attends, hein, ok ?» Ça va pas, connasse ? Personne dans cette famille de putes ne prendra jamais de décision à ma place. Personne ne me dira ce que je dois faire. Alors maintenant, tu remontes dans ta piole, tu trempes ton cul merdeux dans la baignoire, tu pionces un coup et tu reviens sur le pavé à midi, comme j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai à foutre d'un mec que je vois seulement quand il vient chercher son fric, dit-elle. J'en ai marre de tout ça, je me tire. Elle était jeune, vive, et n'avait pas son pareil pour attirer le micheton. Un vrai rêve pour un mac, elle le savait. Elle m'avait mise à l'épreuve avec son coup de gueule et elle s'attendait à ce que je me laisse pigeonner. Elle fut déçue en s'apercevant que je restais parfaitement calme. Je la vis flancher quand je lui répondis de ma voix glaciale. Écoute bien, pétasse. J'ai jamais connu une pute qui soit indispensable. Quand une pute me quitte, je fais la fête. Parce que ça libère une place pour une autre fille qui en vaudra la peine et dont je ferai une star. Je démarrai en trombe. Dans le rétroviseur, je vis Kim marcher lentement vers l'hôtel, les épaules voûtées. Un peu plus tard, je revins m'occuper d'elle. Nous étions dans le parking de la gare lorsqu'elle s'effondra enfin. Les yeux humides, elle se mit à glapir. « Chérie, tu vas pas me laisser partir, je t'aime mon chéri !» C'était le moment de jouer le bel indifférent pour assurer la prise. « Je veux pas d'une pute qui a envie de foutre le camp, dis-je. Si une fille veut être avec moi, il faut qu'elle me soit fidèle pour la vie. Après le cirque que tu m'as fait ce matin, il vaut mieux que tu partes. Une fille comme toi, j'en ai pas besoin. »
Mélanie Courarier, on sent au fil des entretiens que vous avez menés auprès de ces alpha mâles, on sent cette violence-là, on sent cette tension-là, on sent cette dureté. Et puis quand même, on sent aussi une forme de détresse. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, ils ont pu vous toucher à un moment ou à un autre dans ces 3 ans d'enquête ?
C'est une question très délicate. Parce que, au-delà de ce que j'ai pu moi ressentir, c'est que c'est la question de l'authenticité de la souffrance qu'ils ont exprimée. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée face à des hommes qui exprimaient visiblement et clairement une souffrance d'expérience. Enfin, ils me disaient qu'ils souffraient en tant qu'hommes dans la société contemporaine, etc. Or, il se trouve que je viens des études de genre et de tradition féministe et que du coup, enfin, que je suis féministe, une chercheuse féministe, et que du coup, ça me posait problème parce que, on peut pas considérer qu'on est dans une société où l'égalité est acquise, contrairement à ce qu'ils avancent, puisque pour eux, ça y est, on est dans une société post-égalitaire, les droits des femmes sont, c'est fini, on peut plus en discuter. Et donc, du coup, comment prendre au sérieux à la fois leur discours de souffrance, tout en ne validant pas d'entrée cette hypothèse d'une société qui serait devenue égalitaire. Et du coup, c'est prendre très au sérieux leur parole, c'est aussi finalement la placer dans une perspective à la fois historique et sociale. C'est ce que j'ai essayé de faire avec mon ouvrage.
Thibaut Sardier, c'est le moment où je vais vous libérer. Je rappelle que votre article « Let's go to the beaches » est à lire dans le Têtu du mois de juillet-août. On vous souhaite une belle virée à la plage.
Merci.
Merci beaucoup. Nous, on en appelle à une sacrée gonzesse pour mettre le feu à ce studio. Badito, s'il vous plaît. Felt like a fever, came on like a storm. But what I felt, it can't be helped no more. Get up, 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 up. If you want my love. Get up, 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 up. If you want my love. Swift as a river, with a head as hard as stone. What's hard as hell, the same will leave you cold. Now I'm a believer, my word's as good as gold. But walk on a fine line might not lead to home. Get up, 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 up. If you want my love. Get up, 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 up. If you want my love. Fire.
Fire, Beth Ditto, extrait de son dernier album Fake Sugar. Et sachez, le label sera en concert au Bataclan le 7 octobre. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble, alors on en profite.
Dans quel monde on vit ? L'été sur France Inter.
Mais oui, tiens, dans quel monde on vit l'été ? Où êtes-vous ? Que faites-vous pendant qu'on se parle ? Racontez-nous vos étés, racontez-nous un été particulier ou quelque chose, voire tout, pour vous, a basculé, un coup de foudre, des retrouvailles, un changement de cap, un choc culturel, que sais-je. On prend tout, notre répondeur prend tout, alors appelez-le au 01 56 40 55 35. Pour vous donner de quoi vous inspirer, je me tourne vers vous, Mélanie Gourarier. Comme tous nos invités, vous n'êtes pas venu les mains vides, vous nous avez apporté un objet qui raconte votre été particulier à vous. Alors évidemment, moi je sais de quoi il s'agit, mais est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs ce qui se trouve sur votre droite là actuellement.
Il s'agit d'une banane.
Très bien, alors je vais prendre cette banane. On a le droit de la peler? Non, on la touche pas.
Si, si, vous pouvez.
Alors,
vous pouvez.
Je vous la laisse même. Je vais peler la banane pendant que vous entendez le cri. Voilà. Pendant que vous me racontez cette histoire. Peut-être que je vais même la manger, cette banane. Alors, elle vous amène où, cette banane ? À quel été ?
Elle m'amène à plusieurs étés. Quand j'étais petite, on partait tous en famille avec mon frère et mes parents en Vendée, tous les étés. Et la route était pour nous, enfants, assez longue, puisque c'était plus de 5 heures de route. On était très indisciplinés dans la voiture, on gesticulait beaucoup et ça agaçait mes parents. Et du coup, ils avaient trouvé une tactique pour nous calmer, c'est que la dernière heure de route...
Ils vous fourraient la banane dans la bouche ?
Non, pas du tout. Ils nous disaient, bon, bah, le premier qui voit la mer, il gagne une banane. Sauf que la route qu'on prenait pour arriver dans notre maison en Vendée, bah, on ne menait pas du tout. Enfin, on passait pas par la mer. Et pendant peut-être plus de 5 ans, avec mon frère, on était collés aux vitres, à guetter la mer et on ne l'a jamais vue par cette route-là, en tout cas.
Donc, jamais mangé de banane. Donc, peut-être vous pouvez vous venger aujourd'hui. Manger une banane, même si de la vitre du studio, on ne voit qu'un bâtiment un peu gris, j'avoue. Merci Mélanie Gourarier, votre banane rejoindra notre collection particulière, collection qui comprend également cette semaine la branche de romarin de Mathieu Asselin, le pendentif Ganesh de Xavier Duringer, la boîte à maquillage de Cathy Perle et la guitare de Philippe Pujol. Vous les avez vus sur notre compte Instagram, vous les retrouverez là, tout de suite, maintenant, mixés, malaxés, secoués, shakés dans le pêle-mêle d'Alexandre Comte. Bonjour Alexandre.
Bonjour Julia.
Allez hop, on vous suit où vous voulez.
J'ai longtemps été un lion, un as de la séduction. Pour moi, la vie était un ring où tombaient les filles, tout en douceur, bien sûr, jusque dans mes bras musclés. On me comparait au King, à Elvis, Elvis Presley, vous savez, le chanteur. Bon, lui a grandi dans le Mississippi, moi à Saint-Germain-du-Puy, moins glamour, je sais, mais tant pis. Quand il a commencé à exploser dans les 50s, on me prenait souvent pour lui, en tout cas, je lui ressemblais. On était de beaux mâles, de beaux lions, mâchoires carrées, muscles bandés, regards ténébreux, lac dans les cheveux, et ça faisait son petit effet, croyez-moi, les gazelles craquaient. J'étais pas particulièrement fan de sa musique Elvis, mais j'ai quand même acheté une guitare et appris 3 accords. Ça rajoutait un côté lover, du coup pas besoin de bouquets de fleurs, je chopais à tour de bras. Et elle m'aimait comme ça, beau, macho, sur ma belle moto, une grosse cylindrée, un vrai aimant à poupée. Y'a qu'à voir comment les potes étaient jaloux à s'écringaler ses puceaux. Non les gars, jouez là comme moi, soyez des mâles, faut être viril pour mettre en plein dans le mille. Être un homme, un vrai, presque une bête, bon en tout cas c'est comme ça que j'alignais les conquêtes. Et puis un jour, ça n'a plus trop marché, je me suis fait concurrencer. Y'a d'abord eu ces drôles de hippies fragiles avec leurs fleurs, et leurs cheveux longs, et voilà que les filles se sont mises à préférer la douceur à la sueur. Et puis moi j'ai vieilli, c'est vrai, j'ai pris du ventre, perdu des cheveux, j'étais plus très beau, et j'ai pas su trouver les mots pour compenser, pour qu'elles continuent à tomber. La sensiblerie j'avais pas appris, bref, j'ai perdu la cote, et ça m'a fait tout drôle. Professionnellement, pareil, ça s'est mis à moins marcher, ça n'allait pas fort, quoi, et j'étais dépassé. Jusqu'à ce qu'un pote à moi ait une super idée, je ressemblais encore un peu à Elvis après tout, alors je suis devenu son sosie officiel. Enfin, un de ses sosies, on était plusieurs sur le marché, à faire la tournée des villages. Heureusement, je savais à peu près chanter. Avant de monter sur scène, je sortais ma boîte à maquillage. Ouais, comme une nana, je sais, je mettais du mascara pour surligner mes yeux qui, eux, au moins, étaient restés beaux et bleus. Et puis de la poudre pour cacher mes cernes, mes rides, mon visage qui s'écroulait. Pour faire illusion, quoi, rester encore un peu sur le marché de la séduction. Un costume bleu, de la gomina dans les cheveux pour imiter la fameuse banane du King. Mais quand je me regardais dans le miroir, j'étais franchement déçu. Je me sentais comme un roi déchu. Ressembler à Elvis jeune, c'était bien, mais l'imiter, me travestir, ça me rapportait presque rien, pas un sou. Et les filles ne tombaient plus à mes genoux. J'étais devenu kitsch, vieux, moi qui pensais devenir riche, Dieu. Mais où était passé le beau macho qui pouvait s'entourer d'un harem sans avoir le besoin si superflu de prononcer le moindre « je t'aime » Même les villages ne m'acceptaient plus. J'étais réduit à la rue, au métro, à répéter mon pauvre numéro. J'avais grossi, comme le vrai Elvis d'ailleurs. J'y allais fort sur la bouteille, comme le vrai Elvis, pareil. J'étais malheureux, comme le vrai Elvis, toujours. Sauf que moi, j'étais pauvre, inconnu et seul, de plus en plus seul. Aligner les conquêtes, ça me tentait même plus. Par contre, j'aurais donné beaucoup pour un tête-à-tête avec une fille chouette, un truc qui n'aurait pas forcément fini sous la couette. Un peu d'amour, quoi. Amour, Amour, oui, c'est venu comme une révélation. Je n'étais plus une bête, j'étais un homme et j'avais besoin d'amour, de tendresse, de caresses, de gestes fous, de mots doux, de quelqu'un, quoi, d'une égale, fini, l'alpha mâle. Je voulais une femme qui m'aimerait et que j'aimerais aussi, une femme que j'emmènerais en Italie plutôt que Fissa dans mon lit. Et c'est là que j'ai rencontré Rosemary et c'est le plus beau cadeau que m'ait fait la vie. Elle portait bien son nom et sentait bon comme une branche de romarin. Elle m'a accosté dans la rue, je n'ai pas eu besoin de sortir mon baratin, ça s'est fait tout seul, on a pris un café, on a longuement parlé de tout, de rien. J'étais un vieux lion, fatigué, mais elle ne m'a pas prise en pitié, non, ma crinière défraîchie ne l'a pas refroidie. Elle m'a aimé comme j'étais, et elle m'a fait découvrir que je n'étais pas qui je croyais, que j'étais un mec sensible au fond, que je n'avais rien contre les petites attentions, que j'étais moi aussi capable d'en donner, et pas simplement de draguer, lourdement, vainement, que j'étais moi aussi capable d'aimer vraiment. Elle a fait de moi un homme, quoi, un vrai. Elle avait mon âge, elle n'était pas plus belle que moi, mais on s'entendait si bien. Un jour, elle m'a offert un drôle de pendentif. Dessus, il y avait un éléphant, c'est Ganesh, m'a-t-elle dit, le dieu de la sagesse, elle me l'a accroché au cou. Dans nos têtes, elle vit chanter Love Me Tender, Love Me True. Le lion était mort, j'étais maintenant un vieil éléphant, mais un éléphant heureux, un éléphant fou amoureux.
Merci Alexandre Comte, à la semaine prochaine. D'ici là, bien sûr, votre chronique comme le reste de l'émission, elle se podcast sur franceinter.fr. Merci Mélanie Gourarier d'être venue nous voir. Je rappelle le titre de votre livre, Alpha Mâle, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes. C'est aux éditions du Seuil. Je signale également votre article sur cette offensive masculiniste publié dans la revue Esprit de juillet-août. Je vous souhaite un très bel été.
Merci. Merci à vous.
Quant à nous, on se retrouve dès lundi, juste après le journal de 9h, toujours avec le même plaisir. Très bon week-end à tous.